Bien, donc je vais vous présenter les fruits d'un projet de recherche qui s'est déroulé à l'UFM de Bretagne, en effet, entre les années 2006, 2007, 2009, le temps de récolter le matériau, le temps de l'analyser, de l'exploiter, de le transmettre. Bon, ça fait 3 années de travail autour donc d'un projet qui s'appelle un GRI, groupe de recherche IUFM, que nous avons monté au moment où nous avons été recrutés ensemble par Claire de Quay-Lacoste et moi-même, en compagnie de Catherine Touvron. Et donc ce GRI s'appelait écrit intermédiaire, écrit préparatoire. Au fond, il s'agissait de revenir un petit peu sur cette question du brouillon. Alors, pour mettre en perspective, je dirais, ce travail, je vais rebondir, mais c'est tellement formidable de rebondir sur un matelas qui est celui qui a été construit ce matin. C'est un plaisir. Donc, il va y avoir évidemment des redites, des choses formulées moins bien, moins synthétiques, mais je vais quand même les dire ou les redire à ma manière, avec ma sauce, parce que je crois que c'est important, en effet, d'avoir une mise en perspective des différents modèles d'écriture, avec l'idée derrière, quand on est à la fois souple et en même temps modeste, et il faut l'être, que ces modèles ne s'excluent pas, qu'il n'y a pas de progrès linéaire, évidemment, mais qu'ils coexistent et que c'est à nous, justement, de les agencer avec intelligence et souplesse. Alors, en effet, dans les années 90, les travaux universitaires sur l'écriture et l'analyse des textes ont profondément modifié les pratiques pédagogiques de la classe, de l'école au lycée. Le groupe EVA en a fait partie, pas seulement. Je rappelle rapidement ce qu'était le projet d'écriture, le chantier d'écriture, comme le disait le groupe des Couans. Il s'agissait d'un enseignant qui élaborait, au fond, une séquence, un programme didactique à dimension multiple. C'était un dispositif qui voulait aider l'élève à se représenter les moyens aussi qui lui permettaient de réaliser la tâche qui lui était demandée. La construction supposait des phases d'écriture, mais aussi des phases de réécriture, et c'est là que le brouillon a pris une place essentielle dans ce moyen, dans cet outil qui permet la reformulation. Il y avait aussi dans le projet des activités décrochées, activités parallèles, qui intégraient les apprentissages sur les textes, sur les normes, sur la langue, le tout dans une dynamique du dire, du lire et de l'écrire. Voilà ce qu'était à peu près un projet au sens le plus général. Et ce projet interactif donnait du sens, mobilisait la classe et reflète les avancées des recherches didactiques et linguistiques des 20 dernières années, que ce soit le groupe EVA, que ce soit le groupe des Couans, que ce soit toutes les sensibilités de la recherche. Je crois que l'intérêt, ça a été quand même de mettre en évidence la complexité de l'acte d'écrire. Qu'en effet, il existe plusieurs dimensions à un texte, à un acte d'écriture, et que cette complexité engage des processus rédactionnels multiples. Garcia Deban, Rutter ont pu le montrer, entre autres. Alors, cette réflexion sur la théorie de l'écriture a bien sûr suscité des formes d'apprentissage, concrètement des propositions didactiques de mise en place du travail dans la classe, pour que l'élève, dès son plus jeune âge, soit stimulé dans son envie d'écrire et dans son envie de réécrire au sein de projets qu'on a appelés des projets socialisés, c'est-à-dire tenant compte du destinataire, tenant compte de la situation d'écriture, et cela dès la dictée à l'adulte, à l'école maternelle. L'apport didactique essentiel de ces travaux, c'est sans doute l'idée que on apprend à écrire en écrivant. Que deux logiques sont aux antipodes de ces démarches, c'est croire qu'il faut apprendre à écrire avant d'écrire, c'est-à-dire imiter les anciens et ensuite avoir la liberté d'écrire, premier modèle ancien du 19e siècle qui a été écarté, ou alors qu'il faut écrire après avoir écrit, c'est-à-dire passer par l'expression libre, passer par l'oral, pour ensuite réécrire, c'est l'expression libre des années 70. Donc, du coup, le brouillon, ce fameux brouillon, a occupé une place essentielle dans les approches des années 90, parce que, justement, il faisait entrer dans l'univers de l'écrit. Et n'imaginez pas que l'univers de l'écrit soit une transposition de l'oral, ou un, ou une certaine façon d'encoder un discours oral dans l'écriture. Ce n'est pas ça, écrire. Alors, une fois rappelé en deux minutes ce qui a été dit et si bien dit et développé ce matin, je voudrais simplement poser quelques questions à ces approches. Premier point, la question de la réécriture dans le brouillon. C'est vrai, s'inspirer du travail des écrivains pour fonder une didactique de l'écriture a toujours eu un succès, depuis Antoine Albala, qui en 1903 suggérait le travail du style enseigné par les corrections manuscrites des grands écrivains. Et l'esprit d'Albala a été conservé dans les travaux de Pierre Clarac, qui dans les années 50 proposait l'écriture à la manière des grands textes littéraires. Donc, la question de l'écriture, de la réécriture était déjà là. Sauf que Claudine Fabre-Coll a été véritablement la pionnière, la première, dans les années 90 et puis ensuite en 2002, à donner au brouillon d'élèves un statut d'objet didactique, c'est-à-dire d'un objet scientifiquement transcrit et décrit dans ses opérations de raturage. Donc, en insistant sur le processus de révision, bien sûr que Claudine Fabre a insisté sur ce concept de la réécriture, qui est devenu en quelque sorte le concept phare pour penser l'amélioration de l'écrit. Amélioration de l'écrit, mais en même temps éreinter la conception de l'écriture comme un don, puisque s'il est possible de travailler, de retravailler l'écriture pour apprendre à écrire, c'est donc que cette fameuse inspiration des muses n'est qu'une illusion et qu'il faut se détourner de cette illusion romantique. Du coup, le brouillon a trouvé une place importante dans le champ de la didactique de l'écriture, car il montrait la construction du texte dans la durée. Ce qui était un point assez neuf, c'était une nouvelle gestion de la temporalité de l'écriture. Pourtant, les choses ne sont peut-être pas si simples et si transparentes, parce que le projet d'écriture organisé autour d'un premier jet, d'un second jet, d'une coévaluation entre pairs, de grilles auto-évaluatives, tout ça forme un joli paquet, peut-être que ça pose des problèmes. Et il suffit de regarder les classes, de l'école au lycée, pour se rendre compte que les collègues ont des soucis avec cette façon d'appréhender le brouillon textuel. Le premier souci, ce sont les enseignants qui faisaient passer les évaluations en sixième. Et lorsqu'on a dit une année, on va conserver le brouillon des élèves pour pouvoir confronter le brouillon et la production finale, on s'est rendu compte à 90% que c'était la même chose. C'est-à-dire que le brouillon initial et le définitif étaient quasiment identiques. Donc, si le brouillon ne sert à rien, alors ne faisons plus de brouillon. Et le brouillon n'est pas en soi une nécessité. Autre problème qui s'est posé, la question des élèves en difficulté. Il faut réviser le texte parce qu'il y a des erreurs. Alors on fait écrire et réécrire. Certains élèves en difficulté fatiguent, patinent, abandonnent, ne vont pas jusqu'au bout du processus de réécriture, car plus ils réécrivent, plus ils ajoutent et amplifient des erreurs. Ils en corrigent certaines, mais en ajoutent d'autres. D'où les enseignants qui baissent les bras en disant « la réécriture, finalement, avec eux, ça ne marche pas ». C'est chronophage et ça n'apporte pas une remédiation des erreurs qui existent dans les copies. Autre problème qui s'est posé, c'est le fait que les réécritures, en effet, s'appuyaient sur les fameuses typologies textuelles. C'est-à-dire qu'on sentait bien qu'il y avait derrière un truc. C'est-à-dire une certaine façon de détourner la réécriture vers l'objectif pédagogique, didactique, qui était celui de l'acquisition des normes textuelles. C'est-à-dire qu'on faisait réécrire pour faire monter les structures profondes, pour faire monter l'architecture du texte narratif, du texte descriptif, du texte argumentatif. Mais du coup, se posait le problème de la singularité du discours de chaque scripteur. De ce point de vue, je crois qu'on peut essayer de modéliser les choses selon trois cas. On peut voir les classes où le processus, je dirais, de création, d'écriture, est supérieur au processus didactique d'apprentissage de la notion. Ce sont des classes qui s'orientent plutôt vers l'atelier d'écriture. C'est-à-dire que la parole de l'élève compte davantage que la norme textuelle, notionnelle, qu'il faut faire passer. Ce cas est relativement rare. C'est un cas d'infériorité entre ce que je pourrais appeler le processus didactique et le processus génétique. Deuxième cas, rapport inverse. C'est-à-dire que le processus génétique est inférieur au processus didactique. Le brouillon sert d'artefact pour faire monter une structure abstraite et être au service de l'apprentissage d'une notion scolaire. Et puis, troisième situation, rapport d'égalité, c'est-à-dire il y aurait une interaction entre les promesses du brouillon et les apports scolaires appropriés pour, en quelque sorte, faire accoucher, je reprendrai le terme de la maïeutique, en quelque sorte, faire accoucher une production écrite propre à un élève à l'aide des outils que sont les grilles généralistes, etc. Est-ce que c'est possible, du coup, de concilier la parole singulière de l'élève et les apports les plus généralistes de la typologie des textes? C'est un des problèmes qui était posé ce matin, où on privilégie le processus génétique, où on privilégie le processus didactique, mais est-ce qu'on peut arriver à conjoindre les deux dans une interaction? Alors évidemment, après, je vais essayer de vous montrer en quoi notre travail a essayé d'apporter quelques propositions à cette contradiction, à cette tension. Deuxième point que je voudrais évoquer avec vous après cette question de la réécriture, qui est la question des dispositifs de facilitation. Alors, il est vrai que l'argument de la surcharge cognitive est un argument important, central dans l'acte d'écriture, et il est vrai qu'on a vu apparaître des exercices qui donnaient un pré-canevas à l'écriture, un pré-canevas modélisant que les élèves devaient remplir. Alors, canevas plus ou moins troué, plus ou moins plein, avec une latitude, un degré entre écrire une phrase, écrire un paragraphe, mais en effet, comme en 1903, dans Rédigeon, le cadre est donné. Alors, on a vu, par exemple, fleurir ici et là des écrits à la manière d'eux, à partir d'une trame préexistante, avec des contraintes, un peu à la Loulipo, tu mettras trois adjectifs, tu mettras deux relatives, etc. Alors, est-ce que les dispositifs de facilitation, finalement, sont efficaces? C'est-à-dire, si on retire la béquille de la grille de guidance, par exemple, celle qui consiste à cocher les critères, si on la retire, est-ce que l'élève est autonome après, lors d'une seconde, lors d'une troisième production écrite? L'expérience montre que c'est assez décevant. On ne construit pas véritablement d'autonomie avec les grilles de guidance. Et en plus, en effet, on est sur la décomposition. Alors la décomposition, en plus du style, en stylème, si je puis dire. C'est-à-dire que pour une description, on va dire que dans une description, il faut qu'il y ait des adjectifs, il faut qu'il y ait une énonciation à la première personne, par exemple, il faut telle et telle chose. Alors que, de façon sous-jacente, ce qu'il y a derrière, c'est que le style serait l'accumulation de traits pertinents. Or, il est peu probable que le style d'un texte, ce soit uniquement l'addition de critères. Donc, quelles sont les représentations du style qu'on se fait derrière quand on prend l'architecture d'un texte, quel qu'il soit, en disant que c'est l'accumulation de critères? Donc, la question des dispositifs de facilitation se pose, mais du coup, comment aider les élèves à écrire si ces dispositifs ne fonctionnent pas très bien? Comment aider les élèves à écrire si la réécriture peut poser des problèmes? Troisième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la question de la grammaire de texte et des normes textuelles. Alors, je vais assez rapidement passer là-dessus, parce qu'en effet, la question qui se pose, c'est celle de la parole de l'élève, celle du discours personnel, subjectif de l'élève, qui finalement est un peu aliéné à un modèle génératif qu'il doit posséder et qu'il doit resservir à l'enseignant pour être évalué par rapport à la connaissance de ce modèle général. Alors, je crois qu'il y a aussi autre chose derrière cette idée du modèle. C'est la question de l'articulation de la pensée et du langage. Philippe Lejeune a une très belle expression. Il dit « Le brouillon est un mot magnifique, même si c'est un mot scolaire, car il hésite entre le bouillon et le brouillard. » Donc, entre le bouillon et le brouillard, cela signifie que, pour Philippe Lejeune, comme pour de nombreux écrivains, nous n'avons pas seulement des idées dans la tête ou des modèles génératifs dans la tête, des types de textes dans la tête, pour ensuite les incarner dans une mise en mots, mais que c'est plutôt parce que justement nous ne savons pas ce que nous voulons écrire que nous écrivons. Alors qu'on aurait tendance à penser, de manière générale, que l'élève a des idées et ensuite il met ses idées en mots et ensuite il révise. Ça a été un petit peu la perversion des processus rédactionnels. Planification, mise en mots, révision, inventio, dispositio, elocutio. Bon, alors qu'il semblerait que l'écriture, l'acte d'écriture, si c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi l'inverse. C'est-à-dire, j'écris pour découvrir ce que je veux écrire. Donc, ces questions de cadre préalable peuvent poser problème. Quatrième question que j'évoque de manière très rapide, c'est la question de la dimension développementale de l'écriture. C'est-à-dire que je pense qu'il est difficile d'avoir des modèles généraux et génératifs, quel que soit l'âge du scripteur. Il y a une dimension chronologique dans le développement d'un cerveau humain, et sans doute les méthodes ou les pédagogies qu'on utilise au cycle 1, cycle 2, cycle 3 ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va étudier à l'université. De façon très rapide, Martin Alcorta va distinguer ce qui relève de la stratégie de pilotage par la visée de ce qui relève de la stratégie de pilotage par les contenus, par les données. C'est-à-dire qu'un élève qui nous écrit « épi, épi, épi » est un élève qui ne cesse d'inventer au fur et à mesure de l'invention, au fil de la plume en fait. Donc, il y a une sorcière, donc s'il y a une sorcière... Il y a la maison de la sorcière, s'il y a la maison de la sorcière, il y a la forêt, s'il y a la forêt, il y a le château, s'il y a le château, il y a le chevalier. Et c'est une dérivation, en quelque sorte, au fil de la plume, qui permet l'invention. Ça, c'est le pilotage par les données, c'est-à-dire que les élèves sont sensibles au contenu sémantique de leur production. Et puis, pour Martin Alcorta, il y a le pilotage par les visées, qui relève d'une expertise plus importante, qu'on va retrouver chez le scripteur déjà plus assuré, plus âgé aussi, qui va être capable de mettre en réserve une partie du savoir inventé pour, par exemple, dire « je le mettrai à la fin, je le mettrai au milieu, je vais créer une gradation, etc. etc. » Donc, le pilotage n'est pas le même selon l'âge. Et du coup, il est nécessaire d'avoir une approche qui tienne compte de la diachronie du développement de l'élève, du scripteur. Alors, est-ce qu'on en tient vraiment compte? Ou pas, sans doute oui, les psychocognitivistes c'est sûr, mais concrètement sur le terrain, dans les classes, qu'en est-il de la connaissance que les enseignants ont des stades de développement des élèves? Il faudrait voir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si les élèves, quand ils sont jeunes, ont un pilotage par les données, est-ce qu'il serait intéressant d'essayer d'aller du côté d'un pilotage par la visée? Et peut-être inversement, est-ce qu'un pilotage par les contenus, ça peut pas être aussi très surréaliste et très intéressant chez les scripteurs experts, Donc, se pose la question de cette programmation, et ce matin, on a vu l'importance dans les propositions que tu faisais, et très intéressante, en effet, de la vision synthétique et globale de l'acte d'écriture. Alors, est-ce qu'on peut développer des outils qui permettent à ces jeunes que l'élève ait une vision plus globale de son projet et de l'endroit où il veut nous mener et où lui-même voudrait nous conduire? Ça ne veut pas dire que tout est planifié, que tout est prévu à l'avance. Mais dans les grandes lignes, est-ce qu'on a un point à l'horizon qui se dessine, une petite étoile à l'horizon que l'on voudrait rejoindre? Cinquième point que je voudrais évoquer avec vous, et dernier point dans cette espèce de mise en perspective, c'est la question de la compétence méta. On a beaucoup parlé ce matin de la compétence méta, justement. les travaux importants de Gombert sur l'activité métalinguistique, de Ray Debove, début, fin des années 90, ont mis en avant cette question du développement de la posture métacognitive, métalinguistique, avec l'idée que plus les élèves raisonnent sur ce qu'ils viennent de faire, et plus ils conscientisent en quelque sorte leur processus de création. Il est vrai que cette question se pose, faut-il tout conscientiser? Est-ce que tout est conscientisable? Est-ce que l'important n'est pas dans les méandres du conscient et de l'inconscient et du subconscient? En tout cas, c'est vrai que le problème se pose. Le problème se pose parce que, évidemment, c'est vrai, comme Lahire peut le dire, il y a de l'inégalité à utiliser chez les élèves le métalangage, puisque certains sont dans des milieux réflexifs, des milieux sociaux réflexifs, là où on lit des histoires, là où on discute beaucoup, là où on remet en question par un discours second, un discours premier, et puis il y a des milieux où on n'est pas du tout réflexif. On est dans l'agir, on est dans l'action, et donc se pose cette question de l'inégalité face à la compétence métalinguistique. Mais il y a un autre problème sous-jacent, qui est le problème, je dirais, de l'appropriation du discours métalinguistique. Nous sommes issus d'une tradition rhétorique, rhétoricienne du XVIIe siècle, très française, et qui adore en effet la dispositio, c'est-à-dire la composition, et qui adore le métalangage. Donc nous avons toute une panoplie d'arts poétiques, de rhétoriciens, qui désignent, qui nomment les formes. Quand on prend des étudiants japonais, ceux qui travaillent en FLE peuvent le voir, espagnols, portugais, on s'aperçoit que leur processus d'écriture n'est pas du tout aussi poéticienne et qu'ils ont un rapport peut-être plus intuitif et moins gloseur sur ce qu'ils sont en train d'écrire. Nous, nous sommes au contraire très rhétoriciens. Alors, le problème qui se pose de l'école au lycée, c'est, oui, mais alors quel métalangage? Et le métalangage, on le voit bien à la fin du collège et au lycée, c'est le métalangage de la narratologie. Alors, qui est passé par Genette, vulgarisé, transformé, rhétorique moderne, postmoderne, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle ce jargon technique qui permet de nommer des formes littéraires. Et ce qu'on enseigne aux enfants, aux élèves, aux lycéens, c'est ce jargon. La question qu'on pourrait se poser, c'est peut-il exister un métalangage généré par l'élève lui-même, c'est-à-dire un métalangage endogame qui viendrait d'une nécessité pour l'élève dans une situation donnée de décrire ce qu'il est en train de faire sans pour autant devoir s'approprier un métalangage qui lui est de toute façon extérieur. Ce matin, on a parlé en effet de savoir extérieur ou de savoir intérieur. Si on prend l'opposition, évidemment, il ne s'agit pas d'un langage qui devient que de soi ex nihilo, vous l'entendez bien. Mais malgré tout, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'effort de susciter chez un élève un métalangage à soi? L'invention d'un métalangage à soi. Et comment? Donc, c'est sur le fond de ces interrogations, faut-il toujours réécrire? Ou parfois, est-ce qu'il faut désécrire? Est-ce qu'il faut faire lever la plume de l'élève en lui disant « Tu vas te jeter sur ton cahier de brouillon, je le sais ». Parce que moi aussi, j'ai été cet élève à qui on a dit « Maintenant, raconte tes vacances ». Je prenais mon cahier de brouillon, ma plume, et je commençais à écrire. Peut-être qu'à un moment donné, il faut désécrire, et non plus réécrire, ou écrire tout simplement. Question de la réécriture, question du métalangage, question de la dimension développementale. Bref, est-ce qu'on ne peut pas inventer d'autres modèles que les modèles sur lesquels nous sommes actuellement, qui sont les modèles, grosso modo, des processus rédactionnels et ensuite de leur application didactique avec le groupe EVA, etc. Voilà, c'est sur ce fond que je vais essayer de vous apporter une approche possible qui n'exclut aucune autre approche, qui voudrait se marier, qui voudrait faire des petits avec tout ce qui existe, parce que l'objectif, c'est bien dans ce syncrétisme rationalisé, pensé, bien sûr, d'arriver à ouvrir enfin un peu plus la gamme des possibilités d'écriture pour les élèves et de faire un peu respirer tout ça. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont les apports possibles de la critique génétique. Alors, la critique génétique, c'est cette discipline assez jeune, une trentaine d'années, qui s'est intéressée aux manuscrits des écrivains à partir de corpus qui étaient d'abord bien identifiés. Ça a été avec Hein d'abord, une équipe de chercheurs franco-allemands qui ont travaillé dans les années 80 sur ces manuscrits et qui se sont posé des questions. Ben, des manuscrits, pourquoi faire? Des manuscrits, comment les étudier? Des manuscrits, comment les éditer? Des manuscrits, en quoi ils nous apprennent des choses sur les processus de la création? Et donc, la critique génétique s'est implantée dans un laboratoire qui s'est appelé l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes. Deux mots sur cette équipe, c'est un gros labo parisien qui possède des équipes portant sur des auteurs, Flaubert, Valéry, Aragon, Zola, mais aussi qui possède des axes, je dirais, transversaux. La question du genre autobiographique, manuscrit et linguistique. Donc, voilà. Mais la cohérence de ce laboratoire, c'est de s'intéresser au processus de la création avec l'idée qui est quand même fondamentale et qui n'est pas si évidente parce qu'il y a des il existe des dissidents dans le monde, qu'il ne peut y avoir d'étude des processus de création qu'à partir de l'étude des archives des écrivains. C'est-à-dire qu'il faut une trace matérielle, il faut des manuscrits pour étudier les processus de la création. D'où l'importance de la matérialité de l'écriture. Or, certaines écoles, il y en a une au Brésil, nous dit qu'il est possible d'étudier ces processus de création sans revenir aux manuscrits. Et là, Pierre-Marc de Biasi, qui dirige l'ITEM actuellement, est fondamentalement opposé à une génétique qui se passerait des manuscrits et qui irait du côté, au fond, pour le dire rapidement, des apports de la psychanalyse, etc. Donc, par rapport à la critique génétique, Claudine Fabre-Coll a été la première didacticienne à s'intéresser aux brouillons d'élèves à l'aide des outils de la critique génétique. Elle s'y est intéressée avec le soutien d'Almoud Grésillon, qui est une linguiste de formation, et elle s'est intéressée à l'aspect le plus rédigé du brouillon d'élèves, c'est-à-dire l'aspect textualisé du brouillon, ce qu'on pourrait appeler le premier jet. Premier jet, deuxième jet, c'est-à-dire au fond cette question de la réécriture qui restait toujours au cœur des choses. Bon. Alors, là, j'ai une question à poser à Claudine. C'est que la critique génétique a montré qu'il existait deux types de démarches d'écriture. Une démarche d'écriture, c'est une dominante, ce n'est pas exclusif. Une démarche d'écriture qui s'appellerait l'écriture à programme et une autre qui s'appellerait l'écriture à processus. Alors, je dis bien que ce n'est pas une opposition binaire, mais une tendance, deux tendances. L'écriture à processus, je lis Almoud Grésillon, c'est le type d'écriture sans phase préparatoire, sans plan, toujours déjà textualisant. C'est-à-dire, ce sont des écrivains qui ont besoin de se lancer in medias res dans un brouillon. Il peut y avoir une préméditation, il peut y avoir une intention mentale, mais ils ont besoin de se jeter tout de suite dans l'écriture. Je cite la définition de Biasi, type d'écriture réfractaire, il dit bien réfractaire, hein, il y a quelque chose dans l'opposition même, réfractaire à toute programmation initiale, ne s'appuyant sur aucun schéma écrit et allant droit devant elle, en commençant par une rédaction de premier jet qui avance en s'enrichissant de révisions à chaque nouvelle relecture du déjà rédigé, type Stendhal ou Kafka, et qui peut donner lieu à des réécritures globales sous forme des versions successives de l'œuvre. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que lorsqu'on dit à un élève « Prends ton cahier de brouillon de mon temps, du temps de mon grand-père et mon arrière-grand-père, prends ton cahier de brouillon et commence à écrire », on se rend compte que la critique génétique nous dit que cette pratique n'a rien de naturel, mais que c'est une pratique culturelle. C'est-à-dire qu'elle fait partie d'une certaine démarche possible d'écriture parmi d'autres. Mais malgré tout, il semblerait que l'école, le collège, généralement, ait recours au cahier de brouillon sous la forme d'une écriture à processus. Donc on fait écrire les élèves assez systématiquement sous la forme d'une écriture à processus. Vous voyez bien la connivence qui existe entre une écriture à processus et la didactique des années 90, qui se fonde sur, justement, la didactique du processus rédactionnel, du rédiger, que c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. Donc on peut dire que jusqu'à maintenant, majoritairement, la didactique de l'écriture était une didactique fondée sur une écriture à processus. Voilà une page typique de Stendhal, extrait de la vie de Henri Brûlard, où on voit comment le narrateur à première personne, Brûlard, Stendhal, qui se cache derrière ses différents masques et ses différents jeux, écrit au fil de la plume, fait un croquis, continue, sans qu'il y ait de plan préalable, même si en réalité il y a eu quelques plans, malgré tout accessoires, au milieu de certaines étapes. La dominante est une écriture à processus, on y va, on se lance. D'ailleurs, Stendhal disait « Je ne fais pas de plan, tout plan me glace ». Autre type d'écriture, deuxième grande tendance que la critique génétique a identifiée en partant de l'analyse des manuscrits des écrivains, c'est l'écriture à programme. Donc, l'écriture à programme serait celle qui dominerait chez des écrivains ayant besoin de construire un programme préalable, type d'écriture qui obéit à un programme préétabli et dont l'élaboration parcourt plusieurs états génétiques, notes documentaires, plans, listes, esquisses, brouillons, exemple Zola. Alors ça, c'est extrait de l'ouvrage fondamental d'Almoud Grésillon, élément de critique génétique, édité chez Puf en 93, où elle dresse un petit glossaire à la fin. Et dans Écriture à programme, on voit cette définition et on voit le nom de Zola. Autant vous dire que Zola a souffert. Parce que, certes, Zola est une écriture programmatique, et en même temps, c'est une manière de le figer, alors qu'on peut démontrer l'inverse, qu'il est tout à fait une écriture à processus aussi. Mais peu importe, restons-en sur ces bases. Autre définition de Permarc de Biasi. Type d'écriture qui fait précéder l'écriture par un travail de conception préliminaire, sous la forme de plans, de scénarios, de notes, d'ébauches, de recherches documentaires, qui ont pour fonction de préparer et d'organiser une rédaction qui pourra ensuite être mise en œuvre partie par partie, chapitre par chapitre, page par page. Alors, voilà, deux types d'écriture. Est-ce que les didacticiens ont eu connaissance de ces formes d'écriture ? Claudine Fabre-Col en parle très peu, parce qu'elle est partie du côté d'une recherche portant sur le rédactionnel, sur l'approche de la verbalisation. Mais une généticienne, didacticienne, je ne sais trop comment l'appeler, et puis spécialiste des ateliers d'écriture, qui est Claudette Auriol-Boyer, je dirais, a senti le potentiel que représentaient ces deux types d'écriture. Et elle écrit à leur sujet. À partir d'une écriture non préparée, on éprouve le besoin de construire un programme. Et à partir d'une écriture à programme, on éprouve le besoin de laisser le processus se dérouler en donnant libre cours à la plume afin de mieux revenir ensuite à un programme modifié. C'est une parole sage, c'est-à-dire, au fond, sans doute la complémentarité des deux, mais vous voyez que, pour l'instant, il n'y a pas eu de modélisation ni de proposition didactique en termes d'outillage pour utiliser cette écriture à programme à l'école, au collège et au lycée. Ça a été notre projet. Et en réalité, il me semble que, comme tu l'as très bien montré ce matin, les pratiques dissocient en réalité les deux approches. En effet, tout ce qui va relever, fin du 19e siècle jusqu'en les années 50, de la dispositio, c'est-à-dire il faut construire. Cela dit, on se rend compte que le modèle constructeur est plus propre au type argumentatif. C'est-à-dire, il faut faire le plan d'une dissertation philosophique, etc. Alors qu'inversement, l'écriture à processus serait plus de l'ordre de l'écriture narrative. C'est-à-dire, au fond, écrire un récit, c'est se laisser guider par son invention, c'est normal d'écrire au fil de la plume, de dériver, etc. Ce sont des conceptions purement idéologiques qui relève d'une certaine manière d'organiser la hiérarchie des genres. Bon. Autre didacticienne qui a pu parler de ces deux types d'écriture, c'est Marie Bernanos, en 2006, qui dit la chose suivante. « Il ne faut pas opposer les deux types d'écriture, car, je la cite, « de cette façon, l'écriture scolaire devrait être autant à processus qu'à programme. Il s'agira de ne pas systématiser un mode de fonctionnement et de permettre aux élèves d'explorer les deux dimensions et de les faire interagir, leur permettant ainsi de découvrir ce qu'on pourrait appeler leur profil génétique dominant. Alors, notre travail pendant 3 ans, sur le site de Saint-Brieuc notamment, a été de voir si, comme le dit Marie Bernanos, il existe des profils génétiques, s'il existe des profils cognitifs, si on peut mettre les élèves dans des rubriques, ou si ces questions d'écriture à programme et d'écriture à processus peuvent être explorées autrement que sous la forme d'une taxinomie, en quelque sorte, de profil d'élèves. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de dessiner quelque chose qui ressemblera à une didactique du pré-rédactionnel, c'est-à-dire de s'interroger sur un nouveau modèle d'écriture qui ne soit plus la didactique du rédactionnel que nous avons connu jusqu'à maintenant, mais qui s'intéresse, grâce à l'écriture programmatique, au cinéma intérieur d'un élève en amont du premier jet. Ce cinéma intérieur, je veux dire, ce n'est pas une abstraction. J'ai enseigné 10 ans dans le secondaire. Et le premier déclic a été lorsqu'un jour, un élève en difficulté m'a dit, et c'était toujours touchant pour un enseignant, vous savez ce que c'est, un élève en souffrance, et il m'a dit, « Oh, moi, monsieur, il est bien votre sujet, il me plaît beaucoup. J'ai plein de choses dans la tête, plein de choses. Mais quand faut écrire, ça sort pas. Ça vient pas. J'arrive pas à trouver les bons mots, à mettre en mots et à faire la grammaire, la syntaxe, l'orthographe, alors qu'il y a plein de choses dans ma tête. » Et c'est là que je me suis dit, mais quand je vais évaluer cet élève, si je l'évalue à partir des écrits qu'il me laisse, je n'évalue pas des compétences. J'évalue une performance. Et il y a quelque chose d'injuste à faire ça, surtout quand on nous dit que ce sont des livrets de compétences. Alors, cette didactique du pré-rédactionnel qu'on a essayé de mettre en place, elle essaye aussi de questionner cette question de la performance et de la compétence. Et vous allez voir bientôt cela sous la forme de production concrète. Donc, voilà le projet. Et nous allons commencer justement par évoquer certains projets concrets qui ont été mis en place dans les classes pour voir comment on peut mettre en place une didactique du pré-rédactionnel à l'aide d'autres formes d'écrit préparatoire que ce que nous pouvons appeler le brouillon textuel, le brouillon rédigé. Cette première expérience que je vous présente pourrait s'appeler « Approche des difficultés de l'apprentissage de l'écriture grâce au dessin ». Alors, je vous passe rapidement la question de Zola et l'écriture à programme. Je pourrais, après, dans la discussion, éventuellement, pour des questions culturelles importantes aussi, parce que c'est vrai que Zola peut faire partie des écrits de référence au lycée, par exemple. Vous parlez de la démarche de Zola, mais je préférerais garder du temps pour autre chose. Zola, évidemment, fait des croquis, fait des plans, fait des ébauches, mais au fond, ce n'est pas Zola qui m'intéresse. Et d'ailleurs, j'en profite pour tout de suite éliminer ce qui pourrait être une déviation. Je ne suis pas le premier à penser la critique génétique et l'écriture programmatique comme ayant une portée au lycée, par exemple. D'autres l'ont fait. Mais ce qui me gêne dans ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est que le travail fait avec les élèves, avec les lycéens, tourne souvent au pastiche génétique. C'est-à-dire, on dit aux élèves, oui, pastiche génétique, ça veut dire, voilà, Zola, il a fait une enquête de terrain à la bourse, à ton tour, va dans ton quartier, remplis un carnet d'enquête et écris une description à la manière de Zola. Ça, pour moi, c'est un pastiche génétique, intéressant en tant que tel, mais qui ne construit pas fondamentalement une méthode d'écriture généralisable et exportable sur différents supports, différents exercices. Ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon projet. Donc, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce que je veux, c'est d'abord m'appuyer sur des textes concrets. Nous nous retrouvons dans une classe de cycle 3. Non, faut pas lire, faut me regarder d'abord. Faut me regarder. Nous nous retrouvons dans une classe de cycle 3, école des Merles, une école bien réputée à Saint-Brieuc, d'un bon niveau, secteur privilégié, et première expérience, premier projet d'écriture programmatique, je me limite au dessin, au croquis, en me posant la question suivante, est-ce qu'un croquis peut aider un élève à mieux écrire une fiction ? Nous faisons plusieurs expériences, je vous passe les protocoles, ils ont été assez nombreux pour avoir des échantillons, etc., pour introduire la notion de croquis, tout ça... C'est une séquence à part entière qui pourrait être racontée, évidemment, mais je vais me concentrer. Et je sélectionne parmi le corpus le cas d'un élève. Olivier, un élève de CM2 qui devrait être en 5e et qui présente de très, très grosses difficultés d'écriture. Les exercices d'écriture portaient sur le conte. Il y a eu 4 passations. Et à chaque fois, le conte variait dans ses ingrédients, mais ça restait le genre du conte. Il s'agissait ici, donc nous sommes dans la deuxième expérience, de raconter la suite d'un préambule qui racontait comment Émilie, la copine de Jeanne, se faisait enlever par une méchante sorcière Graziella et que du coup, Émilie décidait de la sauver, etc. Raconte la suite. Et Olivier écrit la chose suivante. Il était une fois Jeanne accompagna un monsieur et le chien Léo, et c'était très long le chemin, et Jeanne était très belle et une sorcière, mais malgré tout le bois faisait 9330 mètres. Et elle était grande la maison, et la sorcière voulait tuer Émilie, et Jeanne sauva Émilie, et Émilie remercia Jeanne qui l'avait sauvée, et l'invita dans sa grande maison, et l'escalier faisait 9833 mètres de longueur, et Jeanne aussi voulait l'inviter, et elle c'était un escalier colimaçon, et il faisait plus petit, au moins 98 mètres de moins, parce que la maison d'Émilie l'a fait peur. Bon, l'enseignante me présente ça, en disant, regarde, ça ne m'étonne pas, Olivier, il est complètement paumé, je ne sais pas comment faire, il est certain que si j'utilise la grille Eva, le concept de améliore ton écrit en réécrivant, je ne vais jamais m'en sortir. Alors, je regarde cette copie, et je me dis, tiens, c'est vrai que c'est assez incohérent, c'est vrai qu'il y a ces chiffres qui sont obsessionnels. Pourtant, si j'identifie les segments renvoyant à la spatialité, je remarque que si je les retire ou si je les regroupe, j'aurai presque un récit dont l'intrigue ou dont les actions pourraient s'enchaîner de façon un peu plus cohérente. Et je me dis, la prochaine fois, quand on va introduire le dessin à titre facultatif, parce qu'au départ on a commencé comme ça, je vais quand même engager Olivier à essayer de prendre un dessin, à prendre une feuille blanche, et d'essayer de faire un croquis. Alors en effet, la fois d'après, je propose à Olivier de prendre une feuille, et en fait il la prend naturellement. Il dit, moi je veux faire un dessin, ça m'intéresse, je veux essayer de faire un dessin. Donc il prend sa feuille, et là, le sujet était de montrer comment Angélique allait être libérée par un prince alors qu'elle était prisonnière d'un dragon, etc., etc. On était toujours dans la forme générale du conte. Le conte avait été travaillé dans ses grandes lignes, c'est-à-dire chez Mackinac, il était une fois un parfait passé simple. C'est pas le genre de choses qui pouvait aider Olivier. Et il fait un dessin préalablement. Il commence par faire un dessin. Alors, peut-être que c'est intéressant de commenter ce dessin. Parce que c'est vrai que ce matin, des jalons ont été mis en place du côté des outils de l'élève, du côté de la réflexivité, du côté de l'artisanat, du côté du métalangage. Et Olivier dessine ce plan. Que représente ce plan ? Un château vu en surplomb. À l'extérieur, le dragon 100 millions de pattes, les topinambours et les biques sans tête. À l'intérieur, Angélique, la fée, le prince. Alors, rien que ce dessin, déjà, est intéressant, me semble-t-il, et c'est déjà de l'écriture, pour moi, et c'est déjà du métalangage, sous la forme du langage iconique. Pourquoi ? Parce que, non seulement ça représente des lieux, donc, je dirais que la question spatiale, peut-être, va être traitée, mais en plus, ce n'est pas qu'un espace de représentation, topographique ou géographique. C'est un espace de construction axiologique, parce que les personnages sont organisés à l'intérieur et à l'extérieur selon le fait qu'ils soient bons ou mauvais. Les bons, Angélique, la fée, le prince, et les bics sans tête, les topinambours, le dragon, à l'extérieur. C'est déjà de façon complètement empirique, et tu avais tellement raison de parler de ces savoirs ignorés, pseudo-ignorés, qui sont si riches et si importants, et qui apparaissent ici comme une compétence fondamentale, structuration d'un système des personnages. Alors que cet élève n'a jamais appris au cycle 3 le système des personnages de Philippe Hamon, hein, ou l'axiologie de Grémas. Mais il est porteur d'une compétence, bien sûr, d'une compétence qu'on pourrait dire insciente, qu'il n'est pas capable de verbaliser sans doute, mais qui reste en lui, et que le dessin ne construit pas, mais actualise. Et ça va être ça l'intérêt du dessin. Il n'apprend rien, sauf que quand même, il fait ressortir des apprentissages qui n'ont pas été enseignés. C'est donc un catalyseur d'un certain type de savoir, inscient, peut-être inconscient. Donc, structuration des personnages bon-méchant, vision surplombante qui réclame un certain degré d'abstraction chez un élève qui, soi-disant, a des problèmes avec la spatialité, et qui donc va aboutir ensuite à un récit. Et je vous propose la lecture de ce récit afin que nous fassions une comparaison avec la première production qui n'avait que 2 semaines d'antériorité. Un jour, la belle Angélique voulait se sauver. Mais une fée vena et metta un prince avec une épée magique. Et il ne réussit pas à combattre le dragon qui lança du feu et de la glace. Et le dragon avait 100 millions de pattes et c'était le dragon le plus fort du monde. Mais le prince appela la fée et lui dit « Aide-moi, je ne sais pas quelle magie faut faire !» Et la fée lui donna la magie. Et le prince tua le dragon, mais le dragon était toujours vivant. Et le dragon avait 15 000 têtes. Et quand il y avait aussi les bics sans tête, il les tua tous. Et voilà comment la princesse s'est échappée. Mais ce n'était pas fini, il y avait aussi les topinambours. Mais c'était des amis. Alors, on peut facilement faire la comparaison avec le premier texte et se rendre compte, j'imagine que vous avez un avis là-dessus, hein, votre regard d'évaluateur tout de suite, j'imagine, fait quelques remarques d'ordre général. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur la cohérence ou sur des aspects qui lui paraissent saillants dans cette copie par rapport à la première? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que c'est un séminaire? On peut réagir, sinon je continue. Bon, alors je continue et nous aurons une discussion après, sans doute. Alors, il me semble que ce texte, on le comprend plus aisément, qu'il est plus clair, qu'il est plus cohérent. Premier point. Deuxième point, je remarque que la spatialité ne figure plus dans le texte. Comme si l'espace avait en quelque sorte trouvé sa résolution sous l'angle graphique. Comme s'il y avait eu catharsis d'un problème, qui est peut-être catharsis, qui est problème aussi, peut-être problème de compétence. On lui a jamais appris à s'occuper du cadre spatial dans un récit, peut-être. Mais en tout cas, il y a une auto-résolution. Alors, autre point. Contrairement au texte précédent, ce texte est relativement riche. Je remarque l'amorce d'un dialogue. Aide-moi, je sais pas quelle magie faut faire. Présence de l'humour. Comment le héros est un anti-héros, donc question encore une fois du héros retourné, donc du personnage. Il y a un progrès dans l'ordre de la complexité de la production narrative. Autre question, la question métalinguistique. Parce qu'à 2 reprises, cet élève a fait naturellement un retour sur l'orthographe et sur la mise en page de son texte, c'est-à-dire la prise en compte de l'espace graphique. Quand il écrit, 2e ligne, « Vena et metta un prix ». Il a mis ça entre parenthèses et il a sauté 1 ligne. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit « Mince, il ne faut pas que j'oublie ce que la maîtresse nous dit toujours. Il faut sauter des lignes pour pouvoir se corriger. » C'est donc la conscience de la norme de la maîtresse, de la norme orthographique, qui d'un coup a eu la place de ressortir. Pourquoi ? Alors on pourrait dire c'est le hasard. Sauf qu'à la fin, retour encore sur la compétence métalinguistique, la princesse s'est échappée. C'est-à-dire une révision à la fois portant sur le temps et une révision portant à la fois sur les homophones grammaticaux, ce qui est pas mal pour un élève autant en difficulté. Donc, il me semble que là, le dessin a une fonction, a eu plusieurs fonctions. Fonction de délestage mémoriel, en quelque sorte. C'est-à-dire que, on parlait de vision globale, mon projet d'écriture est anticipé sur son déroulement général. Ça n'est pas une programmation, comment dire, néo-positiviste au sens où tout est programmatique. C'est plutôt une trame, une direction. Et il y a là un allègement, je crois, de la mémorisation des données de l'histoire. Eh bien, ce délestage cognitif permet à l'élève de s'orienter vers d'autres problèmes et donc la révision de la forme de l'expression. Mise en mémoire. Vision surplombante, c'est-à-dire point de vue omniscient. Point de vue omniscient, presque, hein, il faut que le romancier soit dans son texte comme Dieu, hein, omniscient, présent, mais sans qu'on le voie, Flaubert, ou le point de vue omniscient, Balzac. Est-ce que pour autant il maîtrise tout ? Non. Mais il y a une vision surplombante de l'ensemble du récit. Donc voilà, je crois, l'exemple d'une écriture programmatique qui ne s'aliène pas au modèle génétique, prestigieux, hein, parce que je crois que la question du transfert, elle se pose sur le plan épistémologique, et que le transfert d'une science vers une autre, ce n'est pas seulement la relation descendante de la science fondamentale vers la science appliquée. C'est un leurre, c'est une erreur. Donc, je ne suis pas en train de faire descendre des concepts de la génétique. Je suis en train de refondre des concepts de la génétique dans un contexte d'enseignement. Et du coup, j'altère les concepts. Je les modifie, je les fais évoluer. Mais je crois que sinon, il y a quelque chose de passif et en même temps, idéologiquement, qui est pas très intéressant parce qu'on supposerait que la génétique est en haut et que la didactique de l'écriture est en bas, réceptacle passif des concepts, ce qui n'est pas ma démarche. Donc voilà l'exemple d'une écriture programmatique laissant libre cours à l'improvisation, laissant libre cours au bricolage et permettant, me semble-t-il, des avancées. Alors, vous pourriez me dire, bon, cette histoire de croquis, c'est bien pour les élèves en difficulté. C'est un outil de remédiation. Et puis voilà, ça suffit bien. Élève en difficulté, élève de SECPA, bon, bref, pas forcément. Et je ne crois pas qu'il faille limiter l'usage du programmatique iconique ou du manuscrit iconique simplement à une remédiation d'élèves en difficulté. D'abord, pour quelle raison ? Parce que l'écriture à l'aide du dessin n'a pas que des avantages. Je dois le dire, sinon ce serait un mensonge de ma part. Il ne s'agit pas de valoriser, de survaloriser ou d'être dogmatique. Il y a des formes de contre-apprentissage ou de résistance à la pratique iconique. L'élève number one de cette classe, à qui j'ai imposé un dessin, a fait exactement le chemin inverse d'Olivier. Sa première production était formidable, de l'humour, de la description, du dialogue, de l'originalité. Je lui impose un dessin alors qu'elle me dit « Moi, monsieur, j'en ai pas besoin. » Ça se passe dans la tête. C'est-à-dire qu'elle était dans une démarche d'écriture à processus. Je lui impose le dessin. Elle fait un petit dessin, un truc rikiki, avec une forêt, un pont, vaguement un chevalier sur un cheval. Et elle écrit « Le chevalier sorti du château. » Puis il emprunta le pont, enfin il traversa la forêt, il arriva... C'est-à-dire que chez cet élève-là, le récit a perdu son autonomie et est devenu la description du dessin ou la narration du dessin. Mais la conduite narrative a été altérée par la spatialité qui a tout écrasé. Donc vous voyez qu'il est important de nuancer tous les outils et d'aller du côté du respect de la diversité des scripteurs. Mais inversement, je prends le number two de la classe, Antoine. Donc, bon élève, bien dans ses baskets du point de vue de l'expression du français, de l'expression écrite, etc. Et je propose un dernier sujet qui portait sur un jour de solde. La petite Lisette part avec sa maman faire les soldes au bonheur des dames. On ouvre les portes, la foule s'engage, panique. Lisette est séparée de sa maman. La maman, comme elle s'en fiche parce que les soldes, c'est bien plus important, décide de partir vite, vite, vite et laisse la petite Lisette déambuler dans les rayons en se disant « on finira bien par se retrouver ». Alors, Antoine commence d'abord par faire ce croquis. Un croquis assez complexe, mais que la number one a fait presque à l'identique. Deux étages, le rez-de-chaussée, le premier étage, donc rez-de-chaussée à gauche, premier étage à droite, où se trouve l'accueil, un peu paradoxal, mais pourquoi pas. Vous voyez les rayons, vélo, lampe, livres, fournitures, et puis ensuite des traits en zigzag ou des traits droits qui représentent les parcours des deux personnages, le personnage de la maman et le personnage de la fillette. Donc, première stratégie, je dirais que cet élève-là a décidé de faire deux plans juxtaposés. D'après vous, alors que d'autres élèves ont fait une représentation réaliste du magasin, avec la toiture, les petits drapeaux, les fenêtres, etc. Bon, d'après vous, pourquoi ce dessin-là comme ça? Qu'est-ce que ça peut générer dans le passage à l'écriture narrative, d'après vous? Vous auriez une hypothèse, allez-y.
Oui, moi je pense que cet enfant avait déjà le projet d'imaginer que les personnages se croisaient sans se rencontrer ou quelque chose comme ça. Enfin...
Quand je lui ai posé la question « Pourquoi tu fais ce dessin ?», il m'a dit « Je voulais prévoir les parcours des deux personnages et voir les choses de haut. » Donc, vous n'avez pas tout à fait tort. Alors, ce sont des enquêtes rétrospectives. Et oui, une fois que la production a été faite, est-ce que l'élève a vraiment, dans cette nébuleuse d'idées, est-ce qu'il a vraiment cette idée aussi précise ou est-ce que son programme reste un programme ouvert? Et je pense que c'est un programme ouvert et sans doute il faut que ce programme reste ouvert. Alors, une fois ce dessin fait, l'élève se met donc au travail et ne cesse de faire un aller-retour entre sa copie et le dessin. Et je n'ai pas pu vous la scanner parce que c'était trop petit, ça tenait pas. Mais il est intéressant de noter que la copie de l'élève présente une hétérogénéité de l'espace typographique, c'est-à-dire que ses paragraphes sont petits, grands, et qu'en fait cela est peut-être lié à une certaine pratique de l'œil. Et nous retombons sur la question de l'écran. Hein, j'appellerais bien ma communication l'écran de papier, parce que il y a aussi cette dimension visuo-spatiale au cahier et donc à l'espace de la page. Je vais donc vous lire la production faite par Antoine, qui est le number two de la classe, élève qui n'est pas du tout en difficulté. Lisette découvre la poupée XMA-110, qui peut parler, chanter, marcher et fermer les yeux dans le rayon des jouets. « C'est la poupée de mes rêves !» pensa Lisette. « En plus, elle est soldée !» Pendant ce temps-là, la mère de Lisette courait vers l'escalier. Elle n'était qu'à la moitié qu'elle avait déjà tiré les cheveux de trois ou quatre autres femmes. Lisette, elle, s'était rendue au rayon des fournitures par les loisirs, où elle vit un magnifique tutu rose bonbon et des ballerines. La mère de Lisette courait dans l'escalier pour arriver la première à l'étage. C'était un escalier roulant. Lisette avait bien avancé, elle. Elle s'était rendue au rayon des jouets, ratures, des livres. Et elle avait commencé à lire Boucle d'or. La mère venait, elle, de sortir de l'escalier, mais hélas, ce n'était pas la première, mais la deuxième, car elle avait buté sur une marche et était tombée. Lisette, après avoir fini Boucle d'or, alla au rayon vélo, où elle vit une bicyclette Barbie violette à pois verts. La mère, elle, s'était précipitée vers les vêtements de femme, et elle avait trouvé un ensemble noir qui était soldé à 50%, 150 euros. Lisette commençait à en avoir ras-le-bol d'attendre, et elle se décida à chercher sa mère. Par raisonnement, elle sut que sa mère était en haut. La mère s'était rendue au rayon des chaussures, mais elle n'avait rien trouvé d'intéressant. Lisette était montée à l'étage et avait tout inspecté sans retrouver sa mère. Alors elle a pleuré et une personne l'a amenée à l'accueil. Là, la dame de l'accueil a demandé la mère de Lisette au micro et quand sa mère est arrivée, en la voyant en larmes, elle l'a consolée en lui offrant la poupée de ses rêves. Bien, donc vous voyez là qu'il s'agit d'une production, évidemment, qui a été en quelque sorte catalysée, poussée, par le plan. C'est-à-dire que cette poétique de l'alternance, cette poétique du simultané, l'élève ne l'a pas vue. J'étais là en classe. L'élève ne l'a pas vue en termes de contenu notionnel au cours d'un cycle 3. Vous imaginez bien que c'est une poétique qu'on mettra en place peut-être en 5e, en 4e. Bon. Donc, le plan a suscité, a actualisé ou a activé des savoir-faire qui ne sont pas des savoir-faire explicites et conscients. À titre de confrontation, vous voyez, ce dessin tout bête, tout simple, ressemble étrangement au plan que Zola fait de l'assommoir, fait de la grande bâtisse dans l'assommoir. Même vision d'en haut, même position des personnages, boutique de Gervaise. Peut-être en fait-il moins même qu'Olivier dans la projection de son univers. Sauf que, quand même, à titre d'anecdote, le dessin est un objet fantasmatique. Le dessin n'est pas qu'un objet intellectuel, cognitif. Je ne voudrais pas que vous partiez en vous disant « il fait des écritures programmatiques ou on fait des schémas abstraits ». Tout cela relève bien des affects. À la fois chez Olivier, je vais vous dire tout de suite pourquoi, cet élève a fait une chute très très importante quand il était tout petit dans l'escalier de sa maison. Et il en a gardé un traumatisme mental. Donc vous voyez que la question du dessin pour certains élèves, comme on la pratique d'ailleurs en la psychothérapie, hein, peut avoir des vertus cathartiques, thérapeutiques. Ici, chez Zola, c'est le même processus, même si c'est un écrivain expert. Vous voyez le petit graffiti qui se trouve en bas, qui ressemble à une grille. Vous le voyez. Imaginez, qu'est-ce que ça peut représenter? Dites-moi quelque chose. Ce qui vous passe par la tête? Oui?
Une prison?
Non. Une autre proposition? Un, deux, trois. Adjugé vendu? C'est un matelas. C'est un matelas. Si vous vous souvenez de l'assommoir, la fin est pathétique et en même temps simple. Très simple. Gervaise n'habite plus nulle part, elle loge sous l'escalier et on la retrouve plusieurs semaines après, verte, morte, verte. Et à ce moment-là, Bibi la Grillade vient la prendre et lui dit « Maintenant, tu peux faire dodo, ma belle. » Et il l'amène au cimetière. Ça, c'est la fin officielle. La fin officieuse de l'assommoir, c'était tout autre chose. Gervaise devait découvrir que Lantier couchait avec Virginie. Elle découvre la scène et jette une bouteille de vitriol sur le matelas. Le fameux matelas qui est là. À ce moment-là, Gervais, Lantier la tire par les cheveux au milieu de la cour. Gouget, son amoureux, arrive, ferme les portes, un duel s'engage. Bosch, le gardien, arrive et donne un coup de pied dans le ventre de Gervaise qui est enceinte et qui agonise. C'était une fin mélodramatique, les mystères de Paris, Eugène Sue. Eh bien, la rêverie, le fantasme de l'écrivain devant ce dessin, ça a été de penser ce scénario. Donc, je reviens à notre affaire. Je formalise un peu les choses pour vous dire que cette écriture programmatique telle que je l'envisage, elle propose donc des parcours, elle propose donc une navigation, je dirais multiforme, à travers des écrits préparatoires, sans que ne soit imposé ni à l'élève ni à l'enseignant un parcours imposé. J'ai mis le brouillon rédactionnel, le classique brouillon du cahier de brouillon à la fin. Ici, il peut entrer en interaction avec un ensemble de documents préparatoires qui peuvent être le langage graphique, le dessin, le schéma que j'ai mis en haut, un processus de scénarisation, c'est-à-dire « j'aimerais bien, maîtresse, raconter l'histoire d'une princesse qui habiterait dans une maison, mais seulement je ne sais pas comment faut faire pour créer une maison. » C'est-à-dire des protocoles verbaux qui vont peut-être expliciter des problèmes d'écriture. Donc scénarisation, ébauche, plan, storyboard, note d'intention, à l'écrit ou à l'oral. Ça peut être un travail sur la liste ou sur la fiche. Ça peut être la fiche personnage. Ça peut être la fiche portant sur un lieu, sur un objet. Cette notion de personnage est particulièrement importante, puisqu'on le sait, avec la littérature de jeunesse. Catherine Tauvron a fait un livre là-dessus. C'est une clé pour entrer dans l'écriture, cette littérature de jeunesse. Et puis, il peut s'agir aussi d'autocommentaires. L'autocommentaire, je vais vous le montrer par rapport au lycée, c'est le moment où un élève parvient à formuler des autoconsignes. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important qui se joue dans la façon dont un élève s'approprie les consignes d'un exercice scolaire sous la forme d'une reformulation d'autoconsignes. C'est le passage vers l'intériorisation et vers la construction d'un projet à soi. Donc, si vous voulez, cette didactique du pré-rédactionnel, elle a envie d'être à l'interface du général et du particulier, du scolaire et du personnel. Et je crois qu'elle a les moyens de l'être. Donc, autoconsigne, métatexte, génétique, enfin, je reviendrai là-dessus. Alors, nous étions donc avec le langage visuo-spatial qui nous a montré comment les supports pouvaient être variés dans le travail du brouillon. Je vais vous parler, puisque nous avons la chance d'avoir un public école, collège, lycée, je vais vous parler maintenant d'un projet qui a été construit, présenté en 5e, dans deux classes de 5e classées en ZEP, à La Binquenay, quartier difficile de Rennes, la ville de Rennes où je travaille. Les élèves devaient travailler sur la description, et après avoir découvert de façon un peu... empirique, des descriptions variées, sans que l'enseignante ne formalise un schéma type de texte descriptif, mais plutôt en apportant des supports variés et en voyant en quoi il y avait des points communs, quel était le sens de ces descriptions, pourquoi elles étaient là, à quoi pouvaient-elles servir. On a demandé aux élèves d'écrire une description, de faire une description à partir du sujet suivant. Donc, le sujet était le suivant. Il s'agit de Thésée qui va abandonner Ariane sur l'île de Naxos. Puisque après l'épisode du labyrinthe, Ariane, elle a beau tomber amoureuse, n'empêche que lui, il a ses aventures à poursuivre. Donc, il l'abandonne là. Et le sujet était décrit plutôt l'île que l'héroïne découvre. Et je propose aux élèves d'utiliser un support qui possède quatre parties. Donc, nouveau support iconique, mais légèrement modifié. Ces quatre espaces sont en interaction les uns les autres. C'est-à-dire qu'encore une fois, je n'impose pas un parcours à l'élève. Ce n'est pas un échelonnement linéaire d'étapes. Parce qu'on a été souvent vers ça, et je crois que c'est stérilisant. Dans une première partie, mes listes de mots et d'expressions pour décrire mon paysage. À côté, mon croquis du paysage. En bas, l'ordre dans lequel je veux décrire mon paysage. Et enfin, l'impression que je veux donner au lecteur, le fameux destinataire qu'on évoquait ce matin. Et là, je regarde, j'observe comment les élèves abordent ce document, se l'approprient. Et je me rends compte de plusieurs stratégies. D'abord, il y a des élèves qui vont tout de suite générer un lexique thématique, orienté vers un projet. Mais voyez, on parlait intention, prévision, un projet latent, un projet dans les mots. Mais les mots, ils vont miroiter, les mots, ils vont évoluer. Mais il y a une liste qui est déjà là. Lugubre, sombre, horrible, fantomatique, carcasse, cadavre, rocher, monstre, énorme, méchant, grotte. Donc on voit bien qu'on s'oriente vers des isotopies, des champs lexicaux particuliers qui vont pouvoir structurer la représentation. À côté, le croquis. On le voit pas bien, il est au crayon, mais une grotte qui ressemble à une bouche qui s'ouvre. Vous voyez comment l'interaction des mots et du dessin dans l'ordre du fantasme, de la dévoration, de l'imaginaire. Et puis, du point de vue de l'ordre, je commencerai par l'horrible plat, je continuerai par la forêt lugubre et la grotte fantomatique. Eh bien, le déroulement a suivi le dessin, en fait. La plage, la forêt et la grotte. Donc, il y a là une espèce d'autostimulation à la structuration, sans que l'on ait jamais dit aux élèves, vous allez suivre un plan en trois parties, vous mettez l'élément modificateur, la situation initiale, etc. Et puis, l'impression que voudrait donner l'élève, c'est que cet endroit est maudit. L'interaction des quatre volets montre un projet qui se dessine. Ce projet qui se dessine est un projet personnel. Personne n'a orienté les contenus, la visée, les envies des élèves. Et pourtant, nous ne sommes pas dans un atelier d'écriture. Nous sommes dans un cadre scolaire. Et des apprentissages vont pouvoir se greffer. À n'importe quel moment, on peut faire entrer la typologie textuelle. Hein? Bon, j'entre pas dans le détail de la cuisine et de l'orchestration des séquences. Deux autres exemples pour montrer aussi toute l'importance de la question de la motivation. C'est-à-dire que ces écrits intermédiaires préparatoires deviennent des écrits pour soi. Et on le voit, je vous le montrerai pour le lycée aussi, l'élève oublie qu'il est en contexte scolaire, oublie qu'il est dans un artifice scolaire, notamment dans ce qui relève du dessin. Alors là, nous avons donc une application assez importante. Encore une fois, je vais pondérer mon travail en vous disant qu'un jour, j'ai posé un sujet à une élève, enfin à une classe. L'élève est revenu en me disant « Voilà ma copie ». Je dis « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?»« Ben, c'est un dessin. »« Non, monsieur, ce n'est pas un dessin, c'est une bande dessinée. » Je dis « Ben, et où est ta copie ?»« Ah, mais il n'y a pas de copie. » »« Je rends la bande dessinée. » Donc, voyez comment l'attraction du côté iconique peut parfois aussi créer une concurrence. Il faut le prendre en compte. Donc ici, nous avons encore une fois un lexique qui se décline. Mer, plage, forte végétation broussailleuse, grande île, île déserte, fleurs, serpents, arbres. Le dessin. Et en dessous du dessin, je voudrais que ce soit le bazar, qu'il y ait des plantes partout, la peur, l'incertitude, avec des fleurs, ça rassure. Eh bien, je peux vous dire que cette intention qui était d'écrire un texte qui donne l'effet de bazar, ça a été très très dur pour l'enseignante. Parce que, comment expliquer à des élèves qu'un collage surréaliste, ça n'est pas tout à fait de l'arbitraire, mais qu'il y a une intention esthétique et un choix dans les formes du collage? Comment montrer qu'il y a un désordre esthétique possible? C'est très compliqué. Donc comment inventer une poétique du désordre, mais en même temps, voyez le rapport à la norme? Il y a là une liberté qui est là, qui est prise, une autonomie, une émancipation. Je vous lis rapidement la production de l'autre élève. Eau, forêt, sable, grotte, j'arrive pas à lire, animaux, arbres tropical, monstres, requins, plages, volcans, etc. Alors c'est encore plus petit. Je veux donner comme effet la frayeur, la laideur et l'incertitude. Alors, je peux pas développer des heures et des heures, mais la phase qui a suivi la mise en projet, qui est là, ça a été en effet de s'interroger sur comment on crée un effet dans un texte. Et on rejoint la question du fameux lecteur. Et alors là, avec, parce que je suis relativement dubitatif sur le modèle pragmatique. Il me semble que pendant les années 90, il y a eu une domination quand même importante du modèle argumentatif. C'est-à-dire, tout était argumentatif et même une fiction, même un récit avait une force pragmatique et il fallait taper sur le lecteur, le convaincre, l'acquérir, etc., etc. C'était une véritable lutte, en quelque sorte, pour faire adhérer le lecteur. Je crois que les postures de l'écrivain sont multiples à l'égard d'un lecteur. Et qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle la communion, l'affinité, le rapprochement, et pas simplement l'idée de convaincre ce lecteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une dimension qui est beaucoup plus dans l'ordre de l'affinité, de la connivence, que de la lutte entre deux instances. Eh bien là, ça a été difficile. Parce que les élèves se sont rendus compte que pour écrire un texte qui fait peur, il ne suffit pas d'utiliser le mot peur. Et là, c'était toute la place du lecteur qui était posée. Alors, nous allons passer de l'école au collège, c'est fait, nous allons passer au lycée. Avec une nouvelle réflexion sur l'écran de papier. Puisque cette question de la dimension visio-spatiale du support papier me paraît absolument importante, essentielle. Donc, Nous imaginons en classe de seconde, dans un lycée ordinaire de Saint-Brieuc, Rabelais, de mettre en place un cahier d'écriture. Cahier d'écriture sur lequel on trouve deux pages, la page de gauche et la page de droite. La page de gauche est destinée au programme, la page de droite est destinée au processus, c'est-à-dire au premier jet. Je crois que ce n'est pas la peine que j'explique. Vous avez une série de potentialités, de possibilités chez le scripteur élève, et nous allons voir comment se fait l'interaction entre le projet programmé, projeté, et puis le passage à une écriture rédactionnelle. Voilà l'expérience que je vous rapporte. Donc, dans le cadre de l'étude d'une œuvre intégrale, La Bête humaine, le début et la fin du roman sont comparés, notamment avec la présence de la locomotive, au début du roman, à la fin du roman. Et on demande aux élèves d'écrire la nouvelle suivante. Un personnage d'aujourd'hui se trouve dans un lieu et regarde un objet emblématique de ce lieu. Le même objet est présent à la fin de l'histoire. Qu'est-il devenu? Dans quel lieu? Vu par qui? Pourquoi? Donc, sujet analogique. Hein, ce n'est pas la locomotive, c'est un objet. On utilise nos cahiers d'écriture mixte, qui a été préalablement expliqué aux élèves, pour éviter les fameux pastiches. Alors, voilà la forme que peut prendre un cahier d'écriture au niveau du lycée. Il y en a eu plusieurs, nous pourrons parler des cas généraux, de l'ensemble, mais évidemment j'extrais une figure pour donner à voir des problèmes qui me paraissent, converger. Donc, cahier Camille Chapin, cahier de bord, vous voyez déjà la calligraphie. On sent l'appropriation, on sent qu'on entre dans quelque chose qui est un peu à soi et qui peut aller du côté de l'écrit pour soi, de l'écrit privé, tout en étant un écrit scolaire. On est à la marge, on est sur l'hybridité. Alors, elle recopie le sujet, un personnage d'aujourd'hui, voilà, elle réécrit son sujet. Tout à l'heure, on a parlé de la copie, donc là, ça a une fonction. Et puis, elle fait un petit croquis, voilà, et elle écrit « Objet ». Un parc ou un lieu, une place connue, emblématique d'une grande ville, avec ses caractéristiques qui seront décrites. Pourquoi pas des jeux, une fontaine dans un parc? Elle pourrait être vue par deux personnes différentes au début et à la fin. Un personnage, il regarde ce lieu, il réfléchit beaucoup à quelque chose qu'il fera, qu'il doit faire dans l'avenir, et qui pourrait être important à l'intrigue. Mais qu'est-ce qui pourrait le tracasser? Souligné trois fois. Donc, recherche d'un lieu, Bryant Park, Central Park, le carrousel, ce sera l'objet emblématique. Alors, est-ce que j'ai mis un autre passage? Oui, voilà. Toujours dans le même cahier, page de gauche, premier jet, page de droite, un dessin. Charlize n'est plus journaliste, c'est lui qui le devient, etc. Quel est ce dessin? Il s'agit d'une urne funéraire. Objet fantasmatique sur lequel l'élève va délirer son projet d'écriture. Bon, vous voyez que là, on est dans une complexité qui est évidemment supérieure à celle du projet à l'école, mais c'est la même démarche. Je crois que ma voix est en train de lâcher, mais j'espère tenir quand même encore un petit peu. Cahier d'écriture mixte sur lequel des écrits hybrides, protéiformes, se mettent en corrélation les uns avec les autres. Alors, pour ne pas en rester à cette production-là, voilà d'autres cahiers qui, eux aussi, ont eu recours à des projections iconiques. Mais alors, des projections iconiques, encore une fois, qui génèrent du métalangage à soi. Par exemple, sous ce croquis, je dois préciser les lieux, sinon les lecteurs auront à comprendre où se passent les scènes. Le dernier dialogue, trop banal, pas assez d'éléments, soit je le supprime, soit je le développe. Je continue. Voici comment un élève, page de gauche, rédige un brouillon, s'arrête, et comme il est perdu, décide de faire un plan. Page de droite. Description de la vie, description de la ville, description du parc, etc. Donc, alternance, afin d'avoir ces outils intermédiaires qui permettent de revenir vers le rédactionnel. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. Voilà comment un plan le point 4 du plan apparaît, est restructuré sous la forme d'un tableau qui va permettre la fameuse disposition du texte. Alors c'est l'histoire d'un personnage qui fume trop, ne vous inquiétez pas, je ne fume pas, non, et qui tombe malade et attrape un cancer. Et il s'agit de structurer sa mort, la description, la narration de sa mort. Et sans qu'on demande quoi que ce soit, l'élève fait ce tableau, début, milieu, fin. Donc début, la cigarette est calme, sa fumée paraît belle, il est en bonne santé. Milieu, la cigarette s'énerve, sa maladie consomme ou consume sa vie, malade. La cigarette est en furie, incendie, il meurt. Cigarette se consume, maladie qui va jusqu'à la mort, ça se déroule crescendo. Crescendo, allez savoir où l'élève de seconde a été chopé, crescendo. Bon. Cigarette, personnage à part entière, omniprésente dans l'histoire. Émile Zola, au sujet de la Terre, disait « La Terre, ça n'est pas un personnage, c'est, une espèce de mythe qui sera dans toute l'histoire. » Formulation assez proche, finalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, on voit l'émergence d'un métalangage. Crescendo, intrigue, début, fin, allégorie, etc. Et je crois que ça peut être un support intéressant pour les professeurs du lycée pour revenir du côté du pôle de la lecture et repenser autrement la question du commentaire littéraire à travers l'écriture rédactionnelle, pré-rédactionnelle. Donc, je passe sur la fiche personnage, ce serait aussi une illustration. Alors, je veux juste vous lire pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit de sélection, mais qu'il y a quelque chose qui relève quand même d'une dynamique de classe, ce que les élèves de seconde peuvent écrire quand ils se donnent des autoconsignes, et qu'à travers ces autoconsignes, ils digèrent, si je puis dire, la consigne du prof. Ils se l'approprient. Alors, autoconsigne descriptive. Je reprends tout ce qui est déjà écrit car trop compliqué. Je supprime ce passage car je trouve qu'il n'a finalement pas beaucoup d'intérêt et qu'il complique. Autocontrôle, auto-évaluation. Autoconsigne prescriptive. Je dois préciser les lieux, sinon les lecteurs auront du mal à comprendre où se passent les scènes. Autoconsigne explicative. J'ai un bon début, mais pour la suite, je sèche. Je veux que ça aille vers la gaieté pour changer, que l'histoire se finisse bien. Ce serait trop triste autrement. Autoconsigne narrative. À la fin de l'histoire, il va finir par lui rendre sa liberté, même s'il était très attaché à cet oiseau. Et quand je demande aux élèves si c'était bien ou pas bien d'utiliser le cahier d'écriture, voilà ce qu'ils répondent, et vous allez voir que c'est contrasté. Je notais tout ce que je pensais, surtout au début. Moi qui n'avais pas d'idée, la fameuse question de la page blanche, de cette horrible difficulté à entrer dans l'écriture. Moi qui n'avais pas d'idée, ça me permettait d'avancer tout de même. Tout ce qui me passait par la tête, je l'écrivais. Et après, j'aime bien ces Valérien, ouvrant les possibilités en fermant d'autres. Les fameux possibles narratifs. Alors, certains élèves n'ont pas apprécié. Pourquoi ? J'ai l'impression de parler de moi. Ça devient un peu mon journal intime. J'ai pas envie qu'on le lise. J'aime pas les petits trucs qu'on met dans la marge. Ça sert à rien. Donc, des résistances, des pudeurs. Alors, comment aborder un cahier d'écriture comme celui-là ? Il faudra en parler parce que ça rejoint aussi le travail de Marie-Claude Panlou, évidemment, parce qu'on est à la frontière sur beaucoup de points, je crois, avec cette approche génétique. Alors, je voudrais finir, en termes de présentation de projet, sur un projet, je reviens à l'école au niveau du cycle 3, le projet carnet de voyage. Projet carnet de voyage, on se dit qu'un carnet de voyage, c'est tout sauf programmatique. On écrit au fil de l'aventure, bon. Sauf que, peut-être qu'un projet de voyage, ça peut être aussi un objet esthétique construit, ayant un effet sur un lecteur. On demande à des élèves de faire un carnet de voyage, et on se confronte à une vision très normative. Du récit, de l'illustration. Du récit, de l'illustration. On leur montre des carnets de voyage divers et variés, ils voient bien que la disposition est plus arbitraire, plus éclatée, plus fragmentaire. Comment apprendre cette liberté-là, créer un effet de désordre ? Et on leur propose le cahier à idées du carnet de voyage, qui consiste à programmer les effets du désordre pour un lecteur. Comment créer la sensation du désordre tout en restant lisible? Et donc les élèves ont expérimenté, manipulé la mise en page des documents et du texte grâce à un système de fléchage qui leur permettait de faire bouger l'espace de leur carnet de voyage. Donc, carnet à idées qui a débouché sur des productions très riches, qui ont bénéficié d'une exposition presque nationale à la municipalité, à la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, et donc qui ont donné des carnets montrant toute l'implication et toute l'innovation des élèves, sans se priver, bien sûr, d'apprentissage scolaire. Non, c'était toute une progression, toute une séquence avec de multiples activités. Alors, je voudrais finir d'abord en vous disant, je crois qu'il y a une didactique du pré-rédactionnel à creuser. Je pense que la critique génétique peut être un apport, mais que cette critique génétique doit penser ses transferts, qu'il s'agit bien d'une interaction et non pas d'un transfert linéaire des savoirs fondamentaux vers les savoirs appliqués. On ne tient pas assez compte de la spécificité de la didactique de notre discipline si on le fait. Dernier point, celui de la pertinence de ce modèle. On pourrait dire, vous n'êtes pas tout à fait dans les programmes. On ne va pas vers ça. Vous revenez vers le projet. Je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il y a une voie d'accès à travers le socle commun. Le socle commun qui possède deux piliers, qui me paraissent même trois, qui peuvent être, j'aurais pu mettre un troisième pilier, je n'ai pas voulu compliquer. Il y a le pilier maîtrise de la langue, c'est évident. Le pilier autonomie initiative, bien sûr. Il y aurait aussi le pilier, bien sûr, culture humaniste. On voit bien que ça en ferait partie. Mais pourquoi j'ai retenu deux piliers? Parce que le pilier maîtrise de la langue utilise trois termes dans les textes officiels qui nous renvoient à l'écriture à processus. Brouillon, révision, cohérence. Seulement, c'est une vision très normative de l'écriture. Il faut que ce soit un écrit bien révisé, bien écrit, sans faute, etc. Mais on est plutôt du côté d'une écriture à processus. Et puis, il y a le pilier autonomie-initiative qui utilise dans les textes planifier, projet, dossier, problème, résolution, créativité. Il me semble que ces termes-là sont fondamentalement ceux d'une écriture programmatique au sens où elle est souple et ouverte, bien entendu. Donc, il y a une place pour le projet repensé dans le cadre d'une écriture programmatique ouverte, et il s'agirait donc de mettre en interaction ces types d'écriture possibles et les compétences des piliers du socle commun. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre patience.